Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Pour la deuxième tranche de l'émission Okapi Service de ce jour. Merci de votre fidélité à ce magazine de la vie au quotidien. Merci à vous tous qui nous suivez de partout à travers le pays et même en dehors de nos frontières. Merci de nous suivre sur www.radiookapi.net. Nous allons à présent parler des conflits des successions dans nos familles et surtout dans les familles récomposées. Comment arriver à gérer ces genres de situations? Maître Omar Kigalo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, notre invité. Des questions et préoccupations, le standard est ouvert. Composez le 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Debs Vita à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute de ce magazine de la vie au quotidien.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, à présent, nous allons parler des conflits des successions dans nos familles, particulièrement dans les familles récomposées. Plusieurs études ont démontré que la plupart des cas des conflits parcellaires devant les cours et tribunaux sont liés à la succession. Souvent, les parents décèdent et laissent derrière eux des conflits interminables entre les héritiers. Et les choses se compliquent davantage au sein des familles récomposées. Et parfois, ces conflits se soldent par des morts bizarres dans des familles, des situations inexplicables, des situations très compliquées. Alors, comment arriver à gérer les conflits des successions? Nous avons en ligne Maître Omar Kigalo, qui est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Omar Kigalo, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody Kachama, et meilleurs vœux à vous et à tous les auditeurs de la Radio Capitale.
Merci, meilleurs vœux à vous aussi, Maître Omar. Alors, nous parlons des conflits des successions. Est-ce que vous confirmez que la plupart des problèmes, des conflits devant les cours des tribunaux sont liés à la succession?
Je confirme avec force. Si vous faites une étude sur le terrain, vous allez vous rendre compte que dans l'Eldorado des matières qui sont reprises dans les cours des tribunaux, les conflits fonciers battent les records. Tout cela a comme conséquence le non-respect du code de la famille qui a tout prévu en matière de succession, la cupidité de certains juges qui méconnaissent les droits des vrais héritiers au détriment des autres, et enfin l'ignorance de la loi. Un droit, on ne peut le revendiquer que si on le connaît. Voilà pourquoi je dis merci à la Radio Okapi qui touche à ces problèmes épineux qui non seulement violent le droit des héritiers, orange aussi la société congolaise.
Bien,
par rapport à votre noble...
Oui, allez-y.
Oui, je vous suis. Oui, je disais par rapport à la thématique, comment gérer les conflits fonciers, surtout dans les cas des familles récomposées. Je voudrais faire comme l'architecte Jean Nouvel qui dit, on ne peut pas construire une maison sans fondation. Voilà pourquoi je commence par rappeler, à titre pédagogique, la succession suppose l'ensemble des droits et biens laissés par une personne décédée qu'on appelle en droit d'écus, et lesquels les biens doivent être transmis à ses héritiers. Deuxièmement, Par famille recomposée, on suppose deux personnes, hommes et femmes, qui ont déjà eu des relations précédentes, qui ont des enfants et qui décident de vivre ensemble. L'homme vient avec son enfant ou ses enfants, la femme également. Troisième précision, n'hérite pas un droit qui veut, avant de procéder ou d'hériter l'héritage laissé par une personne, excusez-moi la tautologie, il faut en avoir la qualité. Le simple fait de vivre avec M. Jody comme sa compagne ne fait pas de cette femme son héritière automatiquement. Excusez-moi de prendre votre cas. Le fait de vivre avec M. Oui, je sais que vous êtes marié et sérieusement marié. Donc, je disais, le fait de vivre avec une personne pendant 10-15 ans dans une relation libre ne fait pas de cette femme directement héritière. On peut retrouver deux personnes qui se trouvent dans un bar. L'homme a deux enfants, la femme en a deux. Bon, tout va dans la bise ensemble. Ces faits-là ne fait pas d'eux un mariage. En droit, le mariage suppose le versement de la dot, l'enregistrement du mariage à l'état civil et la reconnaissance par un acte de mariage. C'est ça le mariage. C'est faisant, les tableaux étant peints, je voudrais rappeler aux Congolais que la succession, soit des familles normales ou des familles recomposées, est réglementée par la loi du 15 juillet 2016, modifiée et complétant celle du 1er août 1987, qu'on appelle les codes de la famille. La RDC est un état de droit et toutes les matières sont réglementées. Qu'est-ce que dit cette loi, M. Jody?
Avant d'en arriver à cette loi, Maître Omar, il semble que si on enregistre pas mal de conflits des successions, c'est parce que les Dekuyus ou les parents n'ont pas la culture de faire des testaments. Ils meurent sans faire les testaments. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?
Très bonne question. Non seulement ils n'ont pas la culture de faire des testaments, ils n'ont pas aussi la culture de sécuriser leur mariage et leurs enfants. Vous savez, aujourd'hui, peu de parents ignorent que lorsqu'un enfant naît, il faut l'amener à la commune et l'enregistrer dans les 90 jours qui suivent. La filiation, c'est-à-dire la relation entre père et fils, ne se présume pas. Elle se contacte par l'acte de naissance. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont déboutés en justice parce qu'il y a un problème de qualité. Fils biologique, oui, mais qu'est-ce qui prouve? Donc, ce cas est très important. En dehors de l'ignorance testamentaire, il y a aussi un problème de l'ignorance des parents qui ne sécurisent. Il y a beaucoup de parents ici qui ont 10 ans de mariage sans voir un acte de mariage. Voilà pourquoi même faut voyager, on exige aux enfants d'avoir l'acte de naissance. Donc, je suis d'accord avec vous, la non-sécurisation testamentaire et au niveau d'enregistrement pose problème. Mais il faut préciser, l'article 55 dispose ce qui suit. On parle de la succession ou de l'héritage lorsqu'une personne vient à décéder. Cette personne qu'on appelle des couillous. Et la loi a déjà tout prévu, M. Jody. Famille recomposée ou pas. Lorsqu'une personne meurt, ça peut être un héritage testamentaire. C'est-à-dire, M. Jody, de son vivant, dit, après ma mort, telle maison reviendra à ma femme, telle aux enfants, telle à mon oncle, telle à la radio Capi. On appelle ça la succession testamentaire. Elle peut être holographe, vous le dites à la parole. Elle peut être manuscrite, vous écrivez. Vous pouvez aussi l'authentifier auprès du notaire. Mais aussi des successions à l'absence d'un testament. C'est là que les problèmes se posent. Mais pour pallier à cela, la loi a tout prévu. L'article 758 a classifié les catégories d'héritiers. Qu'il s'agit d'une famille composée ou recomposée ou que sais-je. Les enfants nés dans le mariage. Quand je parle du mariage, je fais allusion au mariage légal. Les enfants nés hors mariage, mais reconnus par leurs parents. On appelle ça en droit la filiation. Il peut arriver que M. X, pendant son mariage, a un enfant dehors. Le simple fait de dire que c'est mon enfant ne suffit pas. Il faut aller auprès de l'office de l'état civil, faire ce qu'on appelle l'acte d'affiliation. Vous reconnaissez officiellement que cet enfant n'est pas né au mariage, c'est l'enfant de ma conjointe, mais je le reconnais comme tel. Donc, les enfants nés dans le mariage. Les enfants nés hors mariage mais reconnus par affiliation, les enfants adoptés constituent la première catégorie des héritiers. Et ils ont droit aux trois quarts de l'héritage. Donc on évalue la succession qui reste, on leur remet trois quarts. Deuxième catégorie d'héritiers, on parle du conjoint survivant. Donc si c'est un homme, sa femme, si c'est une femme, son mari. Dans l'hypothèse des familles recomposées, si c'était une simple union libre qui n'est pas liée par un acte de mariage, cette femme ou cet homme n'aura rien. En droit, le simple fait de vivre ne suffit pas. Il faut démontrer la qualité d'héritier ou d'héritière. Les conjoints survivants, Yakatovanda, Luakutu Somba, comme on l'a dit au Congo, ça ne suffit pas. Donc, famille recomposée ou pas, la qualité des femmes ne se présume pas. C'est ce qu'on appelle chez nous en droit les défauts des qualités. Beaucoup de femmes ont initié des procès, beaucoup d'enfants héritiers. Mais l'autre partie vous oppose les défauts des qualités. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes son enfant? Qu'est-ce qui prouve que vous étiez sa femme? Voilà pourquoi vous allez apprendre une dame qui a 30 ans avec son mari et une concubine qui n'a que 2 ans. Mais après le mariage, c'est la concubine qui amène l'acte de mariage et qui est héritière. Parce qu'en droit, la qualité d'héritier ne se présume pas. Donc, le conjoint survivant, le père, la mère de la personne décédée, ses frères et sœurs constituent la deuxième catégorie. Après les 3/4 qui est les héritiers de la première catégorie, qui est les enfants, ceux-là ont droit à ce qui est resté. Et se partagent un douzième. Mais lorsqu'il n'y a pas cela, il peut arriver qu'une personne décède. Il ne laisse ni enfant, ni femme. Il n'a pas de père. La loi précise que ses oncles et ses tantes maternelles, paternelles peuvent aussi hériter. Il peut aussi arriver qu'il n'a ni oncle, ni tante, ni papa, ni maman, ni enfant, ni femme. La loi précise que tout allié, un cousin, une cousine, tout parent, à condition qu'il prouve le lien de parenté, peut hériter. Et enfin, pour finir, l'article 63 dit, si la personne meurt et qu'il n'a pas d'héritier, on remet tous ses biens à l'État. Par rapport à votre question sur la famille recomposée, c'est là où le problème se pose.
Un instant, maître.
Il faut répondre en termes d'hypothèse.
D'accord. Oui. Un instant, nous avons un premier auditeur en ligne, Jérémy, depuis Lubumbashi. Nous parlons de la succession, la gestion des conflits et des successions dans les familles recomposées. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour également à mon très cher ami, maître Omar.
En vous écoutant.
Alors, je salue la pertinence de ce sujet. Et le problème de conflit de succession, vraiment, il est à la une. Parce que même dans nos églises, nous, en tant que pasteurs, il y a des situations qui nous dépassent. Parce que nous disons, l'État est là en première comme étant patron de l'État. Et vous allez voir certains de nos collègues, nos confrères pasteurs, gérer le problème pour lequel l'État lui-même est censé être responsable. En fait, le problème, c'est quoi? Là où, quand nous parlons de la... Nous tissons le mariage, nous voyons qu'il y a des étapes qui sont amorcées. Nous avons la religion qui est interpellée, nous avons l'État civil qui est là, et il y a tous les processus possibles autour de cette situation. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut que la législation congolaise définisse clairement les choses. Nos textes sont devenus très vieux à telle enseigne que le peuple congolais, pour la plupart, vous savez, ici chez nous, les citoyens lambda ne s'occupent que de ses affaires privées et les lois ne sont pas prises en compte. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut instaurer le civisme, même au niveau des écoles. Commencer à apprendre à nos enfants, parce qu'il y a des cours comme en sociologie, on doit apprendre aux enfants comment les choses doivent arriver dans les temps à venir. Mais on assiste aujourd'hui, les problèmes parcellaires persistent. Les biens immobiliers ainsi que mobiliers, lorsque le parent décède, le responsable... Ce qui veut dire que
Jérémy, mais généralement,
quand je dis que l'État doit définir,
oui, généralement, lorsque le père décède, il laisse beaucoup de biens. Vous verrez les oncles, les tantes venir du village, et des personnes qu'on a jamais vues et venir réclamer l'héritage.
Exactement, Monsieur Jody. Et le plus malheureux sont les enfants. Vous le voyez vraiment, le pauvre abandonné à leur triste sort. Ce sont les oncles qui sont en première ligne. La première des choses, quand les parents, vous voyez que leur frère est malade, on commence à chercher la clé du véhicule, on cherche les fiches parcellaires. Tout ça, c'est l'État qui devrait protéger les enfants ainsi que ceux qui doivent assurer la succession. Et aussi instruire carrément les familles. Après avoir épuisé tout le processus du mariage, on doit contraindre les familles à pouvoir définir, parce qu'on définit lesquels types de mariage il y a. Partage des biens et aussi d'autres formes. Alors, mais c'est à l'État congolais de pouvoir suivre.
Oui, généralement, les oncles qui viennent du village s'en foutent de tout cela. Dès qu'ils arrivent, c'est notre frère. Donner tout ce qu'il y a comme bien, et puis la maman protège ses enfants, sinon ils risquent de subir le mauvais sort. Il semble que c'est la sorcellerie s'en mêle.
Exactement. Parce que ça me dépasse, nous, en tant que pasteur, pour gérer certains problèmes. Parce que vous pouvez gérer les problèmes à l'amiable. Mmh. Mais vous allez voir que les enfants, on va dire que si vous osez entrer en possession de la parcelle, vous verrez ce qui peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on arrive? Il y a des situations où nous disons que les affaires coutumières, les ministres qui est de l'Intérieur doivent aussi, ainsi que celui de la Justice, doivent se travailler concomitamment ensemble avec les parlements pour pouvoir, n'est-ce pas, initier quand même certains lois, pour pouvoir mettre les garde-fous et amener à enfreindre tout ce qu'il y a comme parole ou mauvais sort autour de ce problème.
Maître Omar nous a déjà dit ce que la loi prévoit, mais je me demande qu'est-ce qu'il faut faire encore d'autre pour gérer ces genres de situations. Merci d'avoir appelé. On va donner la parole à Dieudonné de Kinshasa. Bonjour Dieudonné.
Bonjour M. Tati, bonjour également à tous les auditeurs et auditrices de la radio.
Quelle est votre question, Dieudonné?
Bon, j'avais juste une contribution ou une remarque que j'ai à faire concernant la situation familiale.
Oui.
Bon, il y a donc surtout cette situation cause des morts si la situation n'est pas bien gérée entre le fils aîné et le célibataire. Ça cause souvent des morts, de la haine, des troubles dans la famille. Mais moi, je souhaite que si dans ces cas, les gens peuvent se réunir et traiter la solution à l'amiable. Et ça se remarque souvent dans la famille où il y a les analphabètes. Parce que les gens qui ont quand même appris, ils ne peuvent pas se tirailler les biens. Ils savent quand même que non, on peut causer, on peut traiter comme ça. Alors, les gouvernements devraient quand même organiser des séances, des conférences, surtout dans les milieux reculés là, où ces histoires sévissent surtout. Et organiser quand même des conférences, faire quand même comprendre aux gens que quand il y a un problème dans la famille, il est coutume de se réunir et s'entendre. Au cas où il y a une solution, solliciter même un voisin, un pasteur ou quelqu'un du droit qui peuvent apporter quand même des solutions à ces problèmes-là. Sinon, pas si l'État ne s'implique pas, on continuera toujours à parler et à avoir des morts et des morts dans les familles.
Merci Dieudonné.
C'est un peu ça, monsieur le journaliste.
D'accord, merci. Maître Omar, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur Jody, du fait que je m'en à nouveau. J'ai dit merci à Jérémy Mito et à Dieudonné de Kinshasa. À monsieur Jérémy, je tiens à rappeler que la loi a déjà tout prévu. Le code de la famille que j'ai cité tantôt. Il est seulement question de l'appliquer et de la vulgariser. Le mariage en droit a 4 conditions de validité. La première, c'est le consentement. On doit être sûr que la personne qui se marie a donné sa volonté. Voilà pourquoi la loi punit les mariages forcés. La deuxième condition, c'est la capacité. Aujourd'hui, la loi dispose qu'on ne peut se marier que si on est majeur. Le mariage des enfants sont interdits, donc au minimum 18 ans. Troisième condition, c'est la dot. Il n'y a pas de mariage si on ne verse pas la dot. C'est la condition fondamentale. Et enfin, dernière condition, c'est l'enregistrement auprès de l'État civil. Ces 4 conditions sont réunies, on peut parler du mariage en droit congolais. La bénédiction nuptiale est une bonne chose, je suis chrétien, mais ce n'est pas une condition que la loi oblige. On peut voir son pasteur au bureau, il prie pour vous, et c'est fini. Par rapport aux enfants, il a parlé, un oncle peut venir, une tante. C'est ce qu'on déplore. Parmi les causes qui font que beaucoup d'enfants sont dépossédés de leur héritage, c'est d'abord la peur. On voit un oncle qui vient du village avec un chauve, avec des cheveux blancs par exemple, qui a des yeux très rouges. On dit si on essaie, il va nous tuer. Donc la peur.
Voilà la peur de la
voilà
mort.
Voilà pourquoi j'aime ce que Bongongo. Voilà. Voilà pourquoi j'aime ce que prof Michel Bongongo dit. L'une des choses qui bloque ces pays, c'est la peur. Autre chose, c'est l'impunité. La veuve et les héritiers n'ont pas assez de moyens. Un soi-disant oncle a des moyens. Il corrompt un juge et un juge cupide, véreux, donne raison à celui qui n'en a pas. Cette impunité encourage aussi ces phénomènes. Et enfin, il y a le non-respect de la loi. À mes cellules données, je suis d'accord, je soutiens. Chez nous, en droit, il y a un principe qui dit « Mieux vaut un mauvais arrangement plutôt qu'un bon procès ». Voilà pourquoi on nous appelle avocat conseil. Si on estime que le dialogue paraît inévitable pour résoudre, on ne peut qu'encourager. Aucun avocat ne peut être là pour aller de procès en procès. Non, c'est vrai. La voie reconnue par la loi, c'est aller en justice lorsque ses droits sont violés. Un héritier qui estime que mes droits sont violés par mon oncle, ma tante, a le devoir de saisir la justice. Parce qu'un oncle, une tante qui vend la parcelle appartenant aux héritiers commet le stéléonat. Et il sera sanctionné et arrêté. Un oncle qui prend la maison d'autrui sans permission peut être poursuivi pour occupation illégale. Donc la voie indiquée dans un état de droit, lorsqu'un héritier estime que mes droits ont été lésés, c'est saisir la justice à l'aide d'un avocat. Mais si on estime qu'il faut parler pour arranger à l'amiable, là les problèmes ne se posent pas. Il faut toujours encourager la paix pour la quiétude de la famille. Voilà ce que je peux dire par rapport aux préoccupations des deux intervenants.
Oui, maître, mais certains disent que la répartition de l'héritage dépend aussi du régime matrimonial adopté par les conjoints.
Excellente question. J'apprécie beaucoup. Mais avant de répondre par rapport à cette question de régime, j'en viens au problème plus de l'émission. Je disais, dans l'hypothèse des familles récomposées, il y a deux cas. Le premier cas suppose que l'homme qui vient avec son enfant ou ses enfants trouve une femme qui a aussi un enfant ou des enfants, décide de se marier légalement. Ils vont devant l'officier, ils versent la dot à la famille et leur mariage existe. Et puis, ils ont encore des possibilités. Le monsieur peut adopter les enfants de sa femme. Et lorsqu'on adopte un enfant, il devient votre enfant. Dans cette hypothèse, les problèmes ne se posent pas. Après la mort de l'homme, les enfants adoptés sont hérités de la première catégorie. Et sa femme est héritière de la deuxième catégorie. Mais les problèmes se posent dans le deuxième cas. Une famille récomposée qui vit en union libre et dont les enfants ne sont pas reconnus juridiquement. Si l'homme meurt, cette femme n'a droit à aucun héritage. Et l'enfant amené par la femme n'a droit à aucun héritage. C'est plutôt l'enfant biologique de l'homme qui va récupérer les biens en tant qu'héritier. Il en est de même pour la femme. Si la femme meurt, cet homme n'a droit à rien parce qu'ils ne sont pas liés par lien de mariage. Et l'enfant de l'homme n'a droit à rien. C'est plutôt l'enfant de la femme. Alors par rapport à votre noble question sur le régime, je rappelle rapidement qu'au Congo, on a trois régimes. La communauté universelle de biens, qui suppose que tout le bien vous appartienne, vous deux époux. Le bien acquis avant le mariage et ceux acquis après le mariage. Ce qui fait que lorsque le mariage est dissous, soit par la mort ou par le divorce, on commence d'abord par liquider les régimes avant de faire la succession. Je prends le cas de M. X qui est marié à M. Y de la communauté universelle de biens. Après la mort de la femme ou de l'homme, on commence d'abord par diviser les biens à deux. On remet d'abord à la femme. Et les peu qui restent là, elle est aussi héritière. Ça, c'est la conséquence du régime de la communauté universelle de biens. Avant de procéder à la succession, on liquide d'abord le régime matrimonial. Mais ces problèmes ne se posent pas dans les cas de la séparation de biens. Ces régimes supposent qu'on est marié, mais chacun garde ses biens. Mais si je dis à sa voiture, sa femme à sa parcelle, ce sont des biens propres. Après la mort de l'un, l'homme ou la femme, les problèmes ne se posent pas. Les biens appartenant au conjoint survivant demeurent d'abord ses biens. On ne fera le partage que sur le bien que les découilleurs ont laissé. Et enfin, il y a la communauté réduite aux acquis. Ça veut dire le bien qu'on a acquis avant le mariage reste des biens propres. Ce sont les biens acquis après le mariage et pendant qui sont des biens communs. Ce qui fait qu'après la mort de l'un des époux, l'époux survivant récupère d'abord ses biens qu'il a acquis avant le mariage. Ça ne fait pas partie de la succession. Et on prend ce qui reste, qui ont été acquis après le mariage, qu'on va partager. Donc cette question des régimes matrimoniaux est très importante. Il faut rappeler à tout le monde, lorsqu'on choisit un régime, il faut en supporter les conséquences. Dans de tels cas, on apprécie d'abord la liquidation du régime. Et enfin, on va penser, on va penser à la succession ou au partage de l'héritage.
Bien.
Voilà la question, la réponse à votre question.
D'accord. On va accueillir Jeannot de Colloisy. Oui, bonjour Jeannot. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la succession, au conflit des successions?
Oui, bonjour. Merci beaucoup. Nous saluons l'invité qui est aujourd'hui invité. Je voudrais poser une question, mais partant d'une explication d'abord, d'un fait. Une famille nombreuse, un père qui, longtemps, a pris sa femme, se sont mis ensemble, il a fait, par exemple, 12 enfants.
Avec la même femme.
Avec son patrimoine, une seule parcelle. La même femme,
oui. Oui.
Sans être passé par le maire pour légaliser la chose. Comme la mort ne prévient pas, je signale déjà que dans la parcelle, le papa avait mis un chapelet de locataires, hein, dont il avait bouffé les avances, comme on dit ici. Le papa mourant, sans laisser de testament, voilà les mots, voilà le testament. Peut-être il le disait verbalement à sa femme, toi, cette parcelle, je serai avec toi et tout ça. Il meurt, et comme on est en Afrique, les oncles atterrissent avec des menaces fétichistes, sorcelleries, démoniaques. Et vous savez que ça a des effets, ces histoires-là.
Oui.
Ça a des effets, ces histoires-là. Allant devant le juge, qui est-ce qui devait normalement hériter de cette parcelle-là? Supposons que le juge de la puissance de l'État donne la parcelle soit aux enfants, soit à la maman. Mais par rapport aux conséquences fétichistes des oncles qui ont aussi un impact spirituel sur la vie des enfants, comment se comporter dans cette situation-là? Comment se comporterait le juge? Parce que donner raison aux enfants, c'est leur mettre dans la gueule du loup, dans le sens où ils vont être maudits par les oncles qui s'imposent aussi. Imaginez que du vivant de leurs frères, ils ne leur donnaient rien. C'est de la colère, ça. Comment se comporteraient les juges dans cette situation-là? Voilà ma question. Merci.
Voilà. Comment se comporter face aux malédictions, mauvais sorts, conséquences métaphysiques, etc. Thomas, on va accueillir la question de Thomas depuis Bounia. Thomas, bonjour. Allô, Thomas? Allô? Bien. Et Thomas n'est pas encore en ligne. Maître Omar, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur Jody Duvant, que vous m'avez déjà à nouveau. Merci à notre compatriote Jonas Jeannot depuis Colosie. Par rapport à sa question, je tiens dès les liminaires à rappeler que si l'héritage qui est laissé est mesquin, il revient automatiquement aux héritiers de la première catégorie qu'on appelle les enfants. L'article 786 du Code de la famille en prévoit, parce qu'on parle de grands héritages et de petits héritages. Papa meurt, il ne laisse qu'une parcelle. Automatiquement, ça revient aux héritiers de la première catégorie. Mais là, soulevait un autre cas, il dit leur mariage n'était pas légalisé. En droit, comme je l'ai dit, il faut éviter de faire des supputations ou des présomptions. Le droit est écrit et toute qualité doit être éprouvée. Voilà pourquoi l'occasion pour nous, je profite de cette tribune que la radio CAFI m'offre, pour dire aux hommes et femmes qui nous écoutent, aussi longtemps que vous êtes encore en vie, sécurisez vos mariages par un acte de mariage. Si vous n'avez pas enregistré vos enfants dans les 90 jours, allez chez les juges, sollicitez les jugements supplétifs et les juges vont ordonner au bourgmestre d'établir l'acte de naissance. C'est la première preuve qui prouve que vous êtes héritier ou héritière. Dans cette hypothèse, comme je l'ai dit tantôt, une femme dont le mari meurt et laisse 10 enfants, en réalité elle est héritière, mais ce sont que les tantes peuvent lui opposer les défauts de qualité. En droit, le mariage s'éprouve de deux manières, soit en exhibant l'acte de mariage, soit en soulevant la possession d'état d'époux. Parce que les juges sont quand même conscients. En dehors de la loi, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Il peut arriver qu'une femme vit avec son mari depuis longtemps, mais ils n'ont pas eu le temps d'aller à la commune. La jurisprudence a réglé de quel cas? On suppose que lorsqu'une femme a vécu avec son mari plus de 20 ans et que la société les a reconnus comme mariés, on peut lui reconnaître la qualité d'époux. Chez les enfants, il y a ce qu'on appelle aussi la possession d'état d'enfant. Il peut arriver qu'un enfant manque l'acte de naissance et que la partie adverse soulève les défauts de qualité. Cet enfant peut, par tout autre moyen, prouver qu'il était le fils de celui qui est décédé. Même en exhibant la photo, même en exhibant la lettre écrite entre père et fils, même en exhibant une conversation téléphonique, ce qu'on appelle en droit la possession d'état d'enfant. Donc, sa question est normale, mais on ne réfléchit pas par émotion en droit. En droit, on réfléchit avec de preuves à l'appui. Vous êtes sa femme, oui, qu'est-ce qui prouve? Le juge n'est pas lié aux propos, il est lié aux actes. Sa conviction est fondée sur les actes qu'on lui présente. Si personne ne conteste, les problèmes ne se posent pas. Elle est héritière. Mais les problèmes se posent lorsque un des héritiers vient contester. Comme je l'ai dit au début, les enfants sont hérités de la première catégorie. Ils ont droit aux trois quarts. La femme ou l'homme survivant, le père et la mère, les frères et sœurs sont de la deuxième catégorie. Les oncles et tantes n'interviennent que si les deux catégories premières font défaut. Qu'ils soient sorciers, tata, ondaou, fumukimbam ou je sais pas quoi, si la loi n'est pas respectée, ils seront arrêtés. Donc ici on parle du droit de la loi, les faits mystiques ne concernent pas. Le droit ne règle pas des problèmes surnaturels. Là il faut les régler avec la prière pour nous qui sommes disciples de Christ. Mais devant le juge, peu importe votre fétichisme, c'est la loi qui domine. Et la loi précise que les oncles et tantes, utiles sorciers, sont de la troisième catégorie. Et ils ne peuvent succéder que si les deux premières catégories font défaut. Et une case spéciale, si le papa ne laisse qu'une parcelle, si on lit l'article 786, ça revient directement aux enfants qui sont hérités de la première catégorie. Mais à condition que ces enfants soient nés dans le mariage et enregistrés, nés hors mariage, mais affiliés par leurs parents, ou encore des enfants d'une autre mère ou de notre père adoptés. Il faut préciser pour éviter des lacunes, parce que dans la pratique,
oui,
on peut venir prétendre être héritier. Si on n'amène pas de preuves, on est débouté.
Voilà, on peut être dans une famille recomposée, mais tant qu'il n'y a pas affiliation, le papa n'a pas reconnu les enfants de sa femme, par exemple, ses enfants n'ont pas droit à l'héritage.
Non, non.
D'accord.
Ils doivent adopter. D'ailleurs, la loi est claire. La loi permet même l'adoption des personnes majeures. Même si la dame amène des enfants qui ont plus de 18 ans, la loi permet. Mais il y a deux conditions. L'enfant qu'on adopte, s'il a plus de 15 ans, il doit aussi consentir. Mais les deux parents biologiques de l'enfant qu'on veut adopter doivent aussi accepter. Si c'est la femme qu'on épouse, il doit dire à son ex-mari ou son ex-concubin que voilà, mon nouveau partenaire veut adopter l'enfant. Si les parents biologiques refusent, l'adoption n'est pas possible. Donc pour sécuriser l'enfant dans une famille recomposée, il faut l'adopter. En l'adoptant, vous reconnaissez devant l'État qu'il est devenu désormais mon enfant. Si vous ne le faites pas, après la mort de l'un des époux, cet enfant-là n'aura pas droit à l'héritage.
Bien, on va accueillir Olivier Ndumba de Kinshasa. Des questions, Olivier Ndumba, de Kisangani plutôt. Olivier, bonjour.
Bonjour, cher présentateur. J'estime que vous allez bien.
Oui, nous allons bien. Merci, Olivier. Quelle est votre question par rapport au conflit des successions dans les familles recomposées?
Déjà, je fais coucou à la grande équipe technique de l'OKP Service, ainsi qu'à notre invité, Maître Omar. Nous, c'est l'ingénieur Olivier Ndumba et Lalo à Kisangani. Alors, en effet, nous saluons très respectueusement cette thématique du jour. Plus souvent, dans la plupart de nos familles, cette question se pose toujours. Déjà, les successions, et pour chercher à pallier à cette question, et comment gérer les conflits des successions dans une famille. À mon humble avis, je pense que l'on peut toujours se recourir à un seul document appelé testament. Ceux qui peuvent bénéficier de cette institution ne sont d'autres que les personnes dont leurs noms sont repris dans ces dix documents. Et nous avons quelques questions à soumettre à notre invité qui est Maître Omar. La première des questions, que peut-on retenir d'abord d'une famille recomposée? Et puis, que va-t-il se passer au cas où la personne mourut brusquement, ça laissait en elle cette documentation appelée le testament. Et pour en finir, quand il y a une imposition de la famille partenaire face au testament, qu'ils prennent tous les biens matériels du défunt, je ne sais pas si je me suis très bien posé mes questions. Merci, c'était l'ingénieur Olivier à Kisangani.
Merci, ingénieur Olivier. Maître Omar.
Merci beaucoup, ingénieur Olivier. Depuis Kisangani, il propose comme solution la rédaction du testament par les découillus avant sa mort. C'est l'une des solutions. J'ai même voulu à la conclusion en parler. L'occasion pour moi de rappeler que le testament est l'acte par lequel une personne de son vivant répartit ses biens et le partage sera fait après sa mort. Il peut être holographe, mais si je dis appelle son avocat ou appelle sa famille, de manière orale, il dit. Mais la condition, c'est que si après 3 mois, il ne meurt pas, le testament est caduque. Il peut aussi être holographe en manuscrit. Il prend un stylo, il écrit et il confie à une personne de son choix. Mais il peut aussi être authentique. Il va devant les notaires, on notarie et on authentifie. C'est là, il confie à son avocat, personne de son choix. Mais il faut rappeler à l'ingénieur Olivier que le testament n'a de sens que s'il est conforme à la loi. Un père ne peut pas, dans son testament, attribuer tous les biens à son église et abandonner ses propres enfants. Les juges annuleraient un tel testament. Un père ne peut pas confier les biens à tous ses neveux et ne rien donner à sa femme et ses enfants. C'est un testament illégal. Le testament n'a de sens que s'il reconnaît le droit des héritiers légaux, le 3/4 des enfants héritiers de la première catégorie et les soldes qui restent aux héritiers de la deuxième catégorie, papa, maman, frères et sœurs et conjoints survivants. Donc si le testament est établi selon ces dispositions que j'ai citées, les problèmes ne se posent pas. Voilà pourquoi dans la pratique, beaucoup de testaments existent, mais ils sont souvent annulés. Parce qu'il arrive qu'un père se fâche. Il se fâche et il dit à son testament, tel enfant n'aura pas droit à mon héritage. Ce qu'on appelle en droit les héritiers indignes. Ça peut arriver. Prenons le cas d'un enfant dont le papa est malade, il précipite sa mort. Il peut être déclaré indigne. Prenons le cas d'un enfant dont le papa est malade, qui n'apporte pas de soins. Il peut être déclaré indigne. Si ces causes d'indignité ne sont pas respectées, aucun père ne peut exhérider. Voilà pourquoi je profite, puisqu'on parle de comment éviter ces conflits. De manière urgente, lorsqu'un héritier, futur de la famille composée, récomposée ou autre, estime que son droit n'est pas respecté, il saisit le juge, car dans un état de droit, nul ne peut se faire justice. Le juge a le devoir de faire respecter la loi en rappelant aux oncles et tantes que les enfants sont héritiers de la première catégorie et en attribuant. Deuxième chose, de manière lointaine, pour éviter de tels conflits, je conseille aux couples qui vivent dans une famille récomposée de sécuriser leur mariage en allant à la commune et enregistrer devant l'officier d'état civil. S'ils ont des enfants éparpillés qui viennent des unions précédentes, qu'ils les reconnaissent par un acte d'affiliation. Deuxième stratégie, pour les parents qui sont à la maison, lorsqu'un enfant naît, il faut l'amener dans les 90 jours qui suivent sa naissance à la commune pour établir l'acte de naissance. Parce que sans cet acte, rien ne prouve que c'est votre enfant. Voilà pourquoi après la mort des parents, certains vont même demander l'ADN. Si vous avez un enfant en dehors de votre mariage, avant ou pendant le mariage, allez l'affilier devant l'officier d'état civil. Si vous voulez adopter un enfant, qui peut être celui de votre femme ou de votre mari, allez voir le juge et on va vous donner un jugement d'adoption. Troisième stratégie, je suis d'accord avec le testament, parce que le testament sécurise et évite les conflits. Mais vous devez le faire à l'aide d'un juriste qui vous rappelle les dispositions de la loi que vous ne pouvez pas violer en faisant les testaments, notamment en respectant le droit des héritiers de la première catégorie, qui sont les enfants, et ceux de la deuxième catégorie, qui sont vos pères, mères, vos frères et sœurs, ainsi que votre femme ou homme qui survit. Dernière stratégie, ça je l'ai vu chez un de mes clients et je conseille à d'autres clients. De son vivant, il a 5 parcelles. Pour éviter des conflits des oncles et tantes, il a inscrit au nom des certificats le nom de sa femme et des enfants. Ça s'appelle en droit la donation. Si M. Jody Kachama, de son vivant, va chez les conservateurs de titres immobiliers, il transforme son certificat au nom de son enfant. Après votre mort, il n'y a rien. Ces biens ne vous appartiennent plus. Même si les oncles viennent avec tous les démons du village,
ils n'auront droit à rien. Cela.
À rien. C'est une stratégie que je conseille à mes clients. De votre vivant, j'ai un client qui a 5 parcelles. À la parcelle où il vit, il a mis au nom de sa femme. Les 4 autres parcelles contiennent les noms de ses enfants. Sur le plan de droit, il y a une conséquence inévitable. Ces parcelles ne lui appartiennent plus. De son vivant, ses frères et oncles attendent qu'il meure. Lorsqu'ils viendront, on va demander quel est le document qui vous lie à cette parcelle. S'ils montrent les certificats de leur grand frère ou leur oncle,
on dira ça a déjà été annulé, voilà le vrai certificat. Et les droits sur une concession immobilière est constaté par les certificats d'enregistrement. Voilà la stratégie pratique que moi je conseille pour éviter. Il y a même des conseils qu'on donne. Si vous avez beaucoup de parcelles de votre vivant, vous dites ça, je donne à ma famille, et ce que vous donnez à vos enfants et vos femmes, vous changez les certificats d'enregistrement. Quand vous mourrez, il n'y a aucun problème qui se pose. Barossa Mbana, certificat d'enregistrement, ils vont pas être là. Voilà un peu le conseil que je donne pour éviter des conflits fonciers après la mort de l'un des époux dans une famille recomposée.
Bien, on va donner la parole à Justin qui nous appelle de Bounia. Bonjour Justin, et quelle est votre question par rapport à la gestion des conflits des successions dans une famille recomposée? Allô Justin?
Merci Monsieur Jody de m'avoir associé dans cette émission. Et oui Monsieur, et aussi je salue Maître Omar.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, Monsieur Jody, vous voyez que nous avons la culture africaine, Monsieur Jody. Ouais, ici chez nous à Bounia, cette histoire de succession, en tout cas des biens, il y a pas mal de conflits en famille lorsque soit la femme ou le papa meurt. Et puis ici chez nous, surtout lorsque le papa meurt, il y a le membre de la famille qui viennent parfois même parviennent à battre même la femme. Et puis s'il avait laissé par exemple des biens, par exemple des vaches, et vous allez voir la façon dont toute la famille va se déverser sur ces biens-là. Et si, par exemple, les DEP duraient 6 jours, ça sera aussi 6 vaches qu'on va égorger. Et maintenant, la question que je demande à notre invité, qu'est-ce que dit la loi? Lorsqu'une personne meurt, est-ce que il peut nous expliquer, monsieur, aujourd'hui, si les successions des biens, parce que ici chez nous, c'est une cacophonie que nous vivons ici à Bounia, parce Nous avons plusieurs cultures africaines dans ce pays. Surtout nous qui sommes à l'Est. Est-ce que quelqu'un dit la loi lorsque une personne meurt, par exemple le papa ou la maman, est-ce qu'il fallait qu'on égorge des vaches tout au long de ses deuils? Et lorsque il y a maintenant la division des biens, le Messie avait laissé des enfants. On dit la femme n'a pas droit de toucher à ces biens-là.
Mais pourquoi on doit égorger les vaches?
Il y a des héritiers.
Oui.
Oui?
Pourquoi on doit égorger les vaches après la mort de...
Pardon?
Pourquoi on doit égorger les vaches après la mort de du papa, par exemple?
C'est oui, ça. Monsieur Jody, normalement... on dit c'est le deuil. On est entré en tout cas. Le parce fait que... qu'il y a deuil, et oui. Puis c'est monsieur qui est décédé, si le deuil va durer 6 jours, il fallait, et s'il avait laissé certains patrimoines, il faut que ces patrimoines-là, que la famille les prenne. Maintenant, je me demande, est-ce que nous avons des avocats, ou bien nous avons des magistrats dans ces pays, pour qu'ils siègent sur la succession des biens, monsieur, aujourd'hui? Parce que, ici à l'Est, nous souffrons sur tous les plans.
Merci Justin. Donc il y a des membres des familles qui ne respectent pas du tout les prescrits de la loi en matière des successions. Maître Omar, qu'est-ce que vous pouvez dire à Justin?
Monsieur Justin a totalement raison. Nous vivons cela même à Kinshasa, où les membres de nos différentes familles réagissent de manière bizarre après la mort du Dekouyus. La loi n'est pas souvent respectée. Mais je voudrais dire à Monsieur Justin et à tout le monde, la coutume est reconnue en droit congolais. C'est l'une des sources du droit. Mais elle a des conditions pour être effective. Elle doit être conforme à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Une coutume qui vous donne le droit d'égorger les biens appartenant entre après sa mort est une coutume illégale. Parce qu'après la mort d'une personne, ces biens qui restent deviennent les patrimoines successoraux des héritiers. Et toute personne qui s'évertue à amputer ces biens commet la destruction méchante ou encore les stéliens s'ils vont la parcelle
ou encore l'occupation illégale s'il occupe, et ou encore que sais-je. Donc la coutume en droit congolais n'a de sens que si elle est conforme à la loi, aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Prenons les cas de ces conflits dans certaines provinces. Après la mort du grand frère, on oblige à la femme d'épouser les petits frères. C'est une coutume démoniaque et illégale. On ne peut pas imposer à quelqu'un un mariage forcé. Donc je suis d'accord avec M. Justin, il faut respecter nos valeurs ancestrales, mais dans un cadre de l'état de droit, la coutume ou les valeurs ancestrales n'ont de sens que si elles se conforment à la loi. Voilà pourquoi je voudrais aussi profiter pour dire, en cas de conflit foncier, la première démarche, c'est de dénoncer. Cet acte peut être fait par tout le monde. Un voisin peut voir les héritiers en train de souffrir, il peut dénoncer auprès de la police, et si c'est un problème civil, la police envoie ça au tribunal. Deux, il faut porter plainte. J'ai un cas, des héritiers qui vivent en Europe, après la mort, leurs oncles ont vendu la parcelle. En revenant, ils ont démontré leur qualité d'héritier, ils ont saisi les parquets. Ces oncles ont d'abord été arrêtés parce qu'ils ont commis les stélionats, les faits de vendre une parcelle qui ne vous appartient pas.
Mmh. Ensuite, et ils ont utilisé quel document? Ils ont vendu la parcelle avec quel document?
Ils ont fait un faux document, à l'absence des documents que la maman avait qui était en Europe.
Oui.
C'est une pratique courante, les faux certificats. Voilà pourquoi je conseille aux auditeurs de la Radio Capi, avant d'acheter ou d'acquérir un bien immobilier, faut se faire accompagner d'un avocat qui va vous accompagner au bureau du conservateur de titres. Ils ont là-bas toutes les archives. Il va vous dire qui est le réel propriétaire. Parce qu'il y a des faux documents qui existent. On les a arrêtés, on les a condamnés, on les a déclarés indignes. Donc, ils ne peuvent plus succéder. Ça, c'est la première démarche. Deuxième démarche, la loi d'être est vulgarisée. Beaucoup de gens ne savent pas que lorsqu'on est enfant, on est privilégié qu'un oncle. Beaucoup de femmes ne savent pas que lorsqu'on est légalement marié, on vient après les enfants et on a droit au solde après les trois quarts des enfants. Il faut vulgariser la loi. Merci à la Radio Capi. Il y a aussi des églises qui le font. Si d'autres milieux sociaux peuvent aussi le faire. Troisième chose, c'est la conscience des juges. Ça fait mal, M. Joly. Les juges congolais, des fois, vivent dans les excès à cause d'argent, à cause des appels téléphoniques aux autorités. On sacrifie les vrais héritiers.
Les vrais héritiers.
On voit dans la pratique et ça fait mal. Vous amenez les vrais documents, vous amenez les vraies preuves, mais les juges cupides et moraux donnent raison à celui qui n'en a pas. Il y a des juges sérieux, il y a des juges compétents, mais dans chaque structure, les brebis galeuses et les moutons noirs ne manquent pas. Voilà pourquoi nous encourageons la démarche du ministre Mutamba qui va dans le sens d'assainir ces secteurs. Il y a enfin la sécurisation de votre mariage et de vos enfants. Mieux vaut prévenir que guérir. L'homme prudent voit le mal de loin. Vous êtes dans une situation de famille récomposée. Assumez-vous. Voulez-vous une union libre ou un mariage sérieux? Si vous voulez le mariage, et par rapport à la loi, et par rapport à la Bible, versez la dot. Allez à la commune, obtenez un acte de mariage. Ce qui fait qu'après votre mort, votre femme va hériter sans problème, sans discussion. Si vous avez des enfants, allez les déclarer. Obtenez les actes de naissance. Si vous adoptez un enfant, faites-le savoir à votre femme. Si vous sécurisez des manières préventives, les problèmes ne se poseront.
Alors, Maître Omar,
ce que je peux conseiller pour éviter ce conflit.
D'accord. Et prenons le cas, un cas de figure où un homme divorce avec sa femme et puis va épouser une autre. Est-ce qu'il aura d'abord à partager ses biens avec son ex? Comment ça va se passer?
Bon. D'abord, on ne parle de divorce que si le mariage existe. S'ils ont été légalement mariés, le divorce est compté par un jugement. Dès lors qu'il y a un jugement, les liens n'existent plus, donc il peut se remarier. Par rapport à sa femme, on va apprécier les cas du régime matrimonial. Vous avez les cas de la communauté universelle, comme je l'ai dit, après le divorce, le juge va également disposer sur le régime matrimonial. Il dira peut-être, je prononce le divorce, et j'ordonne la liquidation du régime. S'ils avaient deux parcelles, on laisse une parcelle à la femme, et l'homme a pas avec l'autre parcelle. Donc c'est un peu cela. Le divorce n'a lieu que s'il y a eu mariage. Et après le jugement obtenant le divorce, on apprécie les cas du régime. Donc tout sera apprécié par rapport à cela. Et s'il y a eu séparation de biens, chacun garde ses biens, on peut aussi apprécier sur la garde des enfants. Parce que le juge doit confier l'enfant là où son intérêt se retrouve. Si on estime que papa est sous là, on confie la garde aux enfants. Si on pense que maman est immorale, on confie la garde à papa. Si les deux sont des immoraux, on peut confier la garde à un orphelinat ou à une structure qui garde les enfants. C'est ça la logique qui se passe en cas de divorce. Mais il faut préciser, la simple séparation des corps n'est pas le divorce. En droit congolais, nul ne peut se marier s'il est tenu au premier mariage. On appelle ça la bigamie. C'est une infraction. Donc, pour obtenir un deuxième mariage, on doit être sûr que le jugement a été prononcé et que le juge vous reconnaît comme divorcé. Voilà un peu la réponse à votre question.
Bien. Et quelqu'un a proposé tout à l'heure qu'il est important qu'il y ait des conférences, là, des vulgariser ces prescrits de la loi, surtout parmi les populations analphabètes qui ignorent tout ce dont on parle aujourd'hui.
Exactement. L'article 62 de notre constitution dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». La loi n'est pas l'apanage exclusif des seuls avocats ou magistrats. La loi est censée être connue de tous. Mais cette connaissance ne sera effective que si on vulgarise. Voilà pourquoi je profite à la radio CAPI et réserve même un jour qu'on appellera journée droit. Peut-être chaque mardi, où Maître Riffin Loco passe, Maître Mouchich passe, pour vulgariser les normes de droit. Parce qu'un état de droit, c'est celui dans lequel les lois sont appliquées à l'égard de tous. Et ces lois ne sont effectives que si elles sont connues. Beaucoup de Congolais commettent de bavures, beaucoup de Congolais voient leurs droits être violés, pas parce qu'ils ont la mauvaise foi, parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Combien de parents congolais savent qu'après la naissance, il faut aller déclarer l'enfant à la commune? Combien de parents congolais savent que lorsqu'on se marie, il faut enregistrer le mariage et lorsqu'il n'est pas enregistré, il y a des conséquences fâcheuses? Nombreux ne le savent pas. Combien d'enfants savent que quand mon père mourra, je suis hérité des premières catégories et je peux agir? Ils ne savent pas. Et cette ignorance fait que les brebis galeuses, les personnes véreuses, s'accaparent des droits qui ne leur appartiennent pas. Je suis d'accord avec vous, il faut vulgariser au niveau des médias, au niveau des églises. Au niveau, moi, par exemple, dans mon église, je salue mon pasteur, le pasteur Florin Canto, je gère le département des couples et familles. Parmi les matières que j'enseigne aux couples qui veulent se marier, j'ai inclus les notions de droit. J'enseigne sur le régime matrimonial, j'enseigne sur la déclaration de naissance des enfants, et je leur communique ça. L'église peut aussi enseigner le droit à ses fidèles, le média. Donc il faut beaucoup de conférences, beaucoup d'émissions, beaucoup de lobbying pour que les Congolais connaissent leurs droits. Car un droit n'a de sens que s'il est revendiqué, et lorsqu'il est revendiqué, il doit être connu, et lorsqu'il est connu, il est appliqué.
Bien, Maître Omar Kigalo, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, Monsieur Jody. Merci à Monsieur Tati et à toute l'équipe. Merci.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de production. Debs Vita était à la mise en onde. Tati Mapuku a assuré la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kelchama, tous les plaisirs étaient pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix. Excellente condition d'écoute. Des programmes sur Radio Okapi. À très bientôt. Vous écoutez la radio Okapi, il est 12h à Kinshasa.